Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. L'audiovisuel est un énorme business et c'est aussi l'outil d'une empreinte sans équivalent sur l'imaginaire collectif. Depuis que les frères Lumière ont appris à faire bouger les images, le cinéma et la télévision sont devenus, tout au long du siècle dernier, des enjeux considérables sur le plan économique bien sûr, mais aussi des marqueurs d'influence culturelle et de vitalité créatrice, ce qu'on appelle le « soft power » selon l'expression forgée par un politologue américain du nom de Joseph Nye. 2019 promet d'être une année charnière dans ce domaine, bousculant les acteurs traditionnels de Hollywood et des grandes chaînes de télévision, de nouveaux mastodontes, Netflix, mais aussi Disney, Apple, Amazon, se livrent à une concurrence effrénée pour accélérer la production de contenu, verrouiller les talents, élargir leur part de marché. Les algorithmes, maîtres du jeu, vont-ils donc pousser à l'uniformisation ou au contraire à la diversification des goûts et des modes de consommation? Le soft power américain, si longtemps assuré par Hollywood, s'en trouve-t-il renforcé ou au contraire, la mondialisation affecte-t-elle aussi les contenus et les messages? Face à cette déferlante, l'Europe et la France en particulier tentent de s'organiser avec retard. L'Asie préserve son précaré, mais la Chine entre dans le jeu. À quelques jours maintenant du Festival de Cannes, au lieu des traditions cinématographiques à la française, c'est le moment d'explorer ce bouleversement culturel, industriel et comportemental qui nous affecte tous. Merci donc à vous tous d'être là. Simone Harari, vous êtes la présidente fondatrice d'Effervescence, qui est un groupe français de production télévisuel. François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, directeur de la revue Télévision, directeur honoraire du Centre d'études des images et des sons médiatiques. Olivier Bomsel, vous êtes économiste, directeur de la chaire d'économie des médias et des marques à Mines Paris Tech. Yannick Dehaye, directeur de Nouveau Monde Édition, chercheur associé au Centre d'histoire culturelle de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Yannick Dehaye, je commence avec vous pour que vous nous brossiez une sorte d'état des lieux. On sort de l'extraordinaire effervescence de la 8e saison de Game of Thrones. Donc, je lisais quelque part que entre le million et quelques de téléspectateurs de la saison 1 jusqu'à la saison 8, on atteint maintenant, en diffusion en direct, si j'ose dire, plus de 12 millions de gens. Alors, Game of Thrones, c'est pas Netflix, c'est HBO. Mais est-ce que c'est en fait le signal de ce bouleversement des plateformes qui passe à la fois par des concentrations et par de nouveaux rapports de force qui semblent changer pratiquement chaque semaine?
Alors, vous avez raison d'insister sur le fait que HBO est en quelque sorte l'ancêtre de la télévision payante. C'est HBO qui, d'ailleurs, a partiellement inspiré Canal+, et qui a, dans les années 70-80, fait basculer une première fois le modèle de la télévision, qui était le modèle jusqu'à présent des trois grandes chaînes créées dans l'entre-deux-guerres ou pendant la guerre, ABC, NBC, CBS, qui étaient des télévisions généralistes financés par de la publicité.
Donc les grands groupes américains.
Les grands groupes américains et HBO est arrivé à perturber une première fois ce modèle en introduisant le concept d'une télévision payante à base de films, d'émissions exclusives et de feuilletons. HBO, effectivement, c'est un certain nombre de séries phares et en particulier Game of Thrones qui théoriquement se termine, mais en fait il y aura des produits dérivés de cette série. Et puis là-dessus est arrivé Netflix, qui était au départ un business de location de films et qui s'est transformé pour devenir un producteur de contenu. Le grand tournant, c'est 2013 avec la fameuse série House of Cards.
Donc, alors Netflix, c'est aujourd'hui 149 millions d'abonnés et au cours de ces trois derniers mois, simplement ces trois derniers mois, 10 millions d'abonnés de plus.
Oui, Netflix est en forte croissance. Il représente à peu près 75% de part de marché sur la télévision payante aux États-Unis, aux alentours de 50% sur l'Europe occidentale. Et puis, un de leurs enjeux, c'est que dans les 5 à 7 années qui viennent, l'essentiel de la croissance va être ailleurs, va être en Asie. Et on considère que d'ici 5 à 7 ans, 50% des abonnés à la télévision payante seront chinois et indiens.
Mais pour le moment, l'enjeu de Netflix, c'est de gagner le plus possible de parts de marché là où les modes de consommation ont déjà été bouleversés. C'est-à-dire que les services à la demande sont déjà très largement installés. Mais ils ne sont pas tout seuls.
Alors, ils ne sont pas tout seuls. Netflix, qui fait 75% de parts de marché, a déjà en face de lui, aux États-Unis, d'autres plateformes, en particulier Hulu, qui est codétenu par Disney et par d'autres studios, qui a par exemple développé la série La Servante Écarlate. Hulu est d'ailleurs sur un modèle mixte intéressant, c'est-à-dire qu'on peut s'abonner sans publicité, on paye un peu plus cher, on peut s'abonner avec de la publicité, on paye un peu moins cher. Et on verra que ce modèle télévision par abonnement, mais avec un financement partiel ou total par la publicité, est lui aussi en train d'émerger aux États-Unis et va certainement arriver chez nous.
Vous parlez de Disney. Disney annonce pour le 12 novembre prochain le grand débarquement, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que Disney, ce n'est plus seulement Walt Disney, si j'ose dire.
Alors, Disney est aujourd'hui des majors, des studios, des grands studios hollywoodiens, le studio actuellement dominant. Il a avalé en 2018 le studio Fox, qui a été revendu par Rupert Murdoch. Mais dans les années précédentes, Disney avait racheté Pixar, ils avaient racheté la licence Marvel. Ils ont racheté les productions George Lucas. Ils ont également National Geographic. Et avec Fox, ils ont des licences comme celle des Simpsons, par exemple. Donc, ils représentent une force de frappe. Et effectivement, ils lancent à la fin de cette année leur propre service de vidéo à la demande dont ils ont l'intention, de promouvoir agressivement avec un prix inférieur à celui de l'abonnement Netflix. Donc, leur objectif est de viser les 40 à 60 millions d'abonnés, c'est-à-dire de marcher très agressivement sur les plates-bandes de Netflix.
Et tout cela, évidemment, en engrangeant et en enclenchant de la production de contenu, François Josse, parce qu'il ne s'agit pas seulement de parts de marché, il s'agit aussi de parts de marché contrôlées avec des produits fabriqués par ces mêmes distributeurs sur plateforme.
Oui, alors c'est ce qui différencie très largement les plateformes du broadcasting dont on a parlé, des trois grandes chaînes américaines qu'on citait tout à l'heure, c'est que une plateforme comme Netflix vend essentiellement des contenus et donc beaucoup de nouveautés. C'est ce qui l'oppose finalement à la logique de la télévision. La stratégie de la télévision, c'est de fidéliser son public. Et donc, si on peut faire 10, 20 saisons de la même série pour garder le public. Là, on est dans une façon de vendre les contenus qui est très différente. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une clientèle qui est en devenir. Et le but, c'est d'attraper le plus de gens possible. Et donc, on voit par exemple de faire des saisons peu nombreuses, parfois deux saisons, mais d'avoir toujours quelque chose de nouveau à proposer aux spectateurs. C'est-à-dire que quand on va sur Netflix, on trouve toujours un truc qu'on n'a pas vu.
Et alors, ce qui est singulier sur Netflix, me semble-t-il, c'est que il ne s'agit plus tellement, comme le faisait Hollywood, de proposer ou de vendre des contenus « made in America » à un public étranger, mais au contraire, de proposer des contenus d'origine étrangère, ou en tout cas d'origine internationale, à une audience globale. Finalement, c'est ce qu'on a vu en découvrant cette série espagnole qui a eu un succès Casa del Papel.
Oui. Mais c'est ce qui est surprenant. C'est vrai qu'a priori, enfin, quand en m'inscrivant à Netflix au début, je me disais qu'on allait avoir des contenus mainstream comme on peut avoir sur les chaînes. En fait, la stratégie est beaucoup plus subtile, c'est-à-dire que on est dans du, je sais pas, on pourrait dire, je pense, du local. C'est-à-dire que on essaye de évidemment de faire des contenus qui vont plaire à beaucoup de gens, mais en privilégiant aussi la différence culturelle des pays qui travaille avec Netflix. C'est comme ça qu'on a eu effectivement cette série Casa del Papel et des films qui parfois peuvent être complexes. C'est-à-dire que, par exemple, le film Roma, qui a eu à la fois des Oscars et le Lion d'Or de Venise, est un film difficile que Hollywood n'aurait jamais pu produire. Donc, ça va contre, finalement, l'intuition. Ce que fait Netflix, c'est ce qu'on appelle du narrow casting, c'est-à-dire on s'adresse à des publics très différents, des publics de niche, et le directeur de Netflix d'ailleurs aime à dire qu'il n'y a pas de style Netflix, c'est-à-dire il n'y a pas le style de série Netflix, il faut trouver des formats de séries qui conviennent à des publics extrêmement différents.
Mais on voit aussi qu'ils achètent ou qu'ils monopolisent en quelque sorte de très grands réalisateurs de cinéma comme Scorsese. Ouais. Ils achètent les droits, ils obtiennent, alors que beaucoup de gens s'étaient battus pour ça, les droits de 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Il y a une force de frappe qui est quand même absolument considérable et avec, par rapport aux réalisateurs, à la différence des producteurs traditionnels, semble-t-il, un tout autre comportement.
Oui, et parfois d'ailleurs, comme un petit tour de passe-passe, parce que par exemple, on va voir 10% qui était une série de France 2 présentée comme une série de Netflix. Donc, une fois que c'est acheté, si vous voulez, Netflix met sa marque, son empreinte sur une série. Ce qui fait d'ailleurs que, si je ne me trompe pas, France Télévisions a décidé de ne plus vendre à Netflix des séries pour les garder pour une éventuelle plateforme dont parlera peut-être Salto.
Simon Harari, on voit bien, vous connaissez intimement l'univers des médias je dirais traditionnel en France, même si vous vous êtes diversifié, c'est-à-dire que vous ne faites pas que des productions télé, vous avez aussi maintenant des productions qui s'adressent précisément aux plateformes. Néanmoins, pour les professionnels dont vous faites partie, c'est quand même un bouleversement complet du paysage en quelques mois.
Alors, c'est peut-être plus qu'un bouleversement, une ouverture du paysage qui est formidable. Alors, je fais vraiment la différence entre l'opportunité totalement imprévisible et imprévue d'une ouverture du marché mondial pour des productions qui existent grâce aux diffuseurs locaux, de Casa des Papel à 10%, qu'en effet Netflix baptise volontiers Netflix Originals avec l'assentiment de ceux qui vendent les droits.
Et qui sont très contents de les vendre à Netflix.
Bien sûr, mais c'est pas le même prix si vous le vendez comme un achat Netflix ou comme un Netflix Originals. Ouais. OCS ne marque OCS Signature que pour leur production originale, leur production inédite. Canal signe Création Canal. Chez Netflix, le fait que ce soit original se négocie, et donc ça l'est ou ça ne l'est pas, mais ils font... Vous ne pouvez pas, comme spectateur, savoir si c'est une production produite par Netflix.
Ou alors, il faut attendre le générique de fin, ce qu'on fait, enfin, il faut bien dire, assez rarement.
Oui. Et même Roma, quand, François, si vous me permettez de vous légèrement corriger, vous dites Hollywood ne l'aurait pas produit. Le film a été produit sur de l'argent privé. Netflix a été mis en concurrence avec d'autres distributeurs. Netflix a mis plus d'argent sur la table. Et puis surtout, c'est un acheteur pour le monde entier, donc ça raccourcit évidemment les prises de décision et les délais. Mais ce que Netflix contribue à faire de façon très intéressante, c'est à brouiller un petit peu les limites jadis infranchissables entre le cinéma et la télévision, puisque les critères habituels, cette fois-ci, ne jouent pas, entre être producteur ou être distributeur, puisqu'il y a une espèce de flou, alors pour des choses qui jadis étaient complètement scindées.
Mais qui rend encore plus difficile le travail des dirigeants des chaînes traditionnelles.
Non, alors d'abord pour les producteurs, c'est quand même que des occasions nouvelles, et pour le spectateur, c'est aussi des occasions nouvelles. Il ne faut pas oublier que le marché américain était complètement fermé aux productions, on va dire, qui n'étaient pas de langue originale anglaise. D'ailleurs, ils étaient très mauvais en doublage, puisqu'ils en faisaient très peu, donc c'est pas étonnant. Et tout d'un coup, il y a pour les spectateurs du monde entier une espèce de profusion qui tient d'abord à ce que c'était des choses qui étaient déjà présentes, mais auxquelles ils n'avaient pas accès.
Et une plus grande diversité culturelle. Alors, donc, c'est ça le paradoxe.
Alors, la diversité culturelle arrive ipso facto, et comme il ne s'agit plus d'être tout public, tout le monde est très content quand ce sont... des Mexicains qui regardent des films mexicains, et surtout aux États-Unis, qui est un pays de multicommunautés.
Ou des Français qui regardent des films mexicains.
Bien sûr, évidemment, mais c'est particulièrement un marché. Il ne faut pas oublier que, vous le soulignez tout à l'heure, Netflix était un loueur de cassettes, puis qui est passé au DVD, mais donc qui savait exactement que quand vous aviez loué la cassette numéro 1, vous alliez louer la 25. Et donc, ils avaient déjà un algorithme un peu dans la tête eux-mêmes. Et donc, ils sont obsédés par les publics. Et donc, ils ne cherchent pas du tout à faire des programmes qui plaisent à tout le monde. Ils cherchent à faire des programmes qui ont des publics. Donc, le morcellement que la technologie permet aujourd'hui, qui est une jouissance nouvelle pour le spectateur et qui permet un renouveau des contenus vraiment intéressants, est pour eux un réflexe naturel, puisque, en tout cas, ils n'envoyaient pas la même cassette à 100 personnes. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme de ce point de vue.
Cela veut dire que ce que l'on appelait, ce que les professionnels dont vous êtes appelaient le linéaire gratuit, d'abord, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, mais donc ça, c'est un modèle qui est frappé d'obsolescence, le linéaire gratuit. D'abord, c'est quoi le linéaire gratuit?
Alors, il y a deux choses. Il y a la télévision comme un flux, comme la radio. Vous allumez, vous voyez ce qui se passe. Alors, bien sûr, vous avez le choix entre plein de chaînes. Mais voilà, à 20h, c'est les nouvelles. Et puis, c'est comme ça. Donc, ça, c'est linéaire parce que c'est un flux continu. Par opposition à, je viens picorer et je choisis ceci ou cela. Donc, on n'est plus dans le menu, on est à la carte. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne soit pas très content, même dans un restaurant où il y a les deux, de choisir le menu. Ensuite, le gratuit s'oppose maintenant au payant. Alors là encore, le payant c'est formidable, enfin, le gratuit c'est pas mal non plus. Je crois pas à l'opposition des modèles, je crois à la juxtaposition, à la superposition des modèles. Alors, le truc très surprenant, finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, après tout, la télé à péage, il y a HBO, il y a Canal, chaque pays a les siens. Donc là, c'est particulier. C'est que, et finalement, le modèle le plus analogue, c'est la musique. Depuis longtemps, il y avait la radio qui était gratuite, où on pouvait acheter des titres ou des CD. Et finalement, le modèle qui prévaut pour le consommateur, honnêtement, c'est pas mon choix individuel, c'est l'abonnement. Un abonnement pas très cher, mais un abonnement, et donc c'est Spotify ou Deezer, qui sont deux très grands succès. Et l'abonnement, donc vous louez pour un forfait, souvenez-vous ce que la licence globale avait créé comme problème quand UGC l'avait créé. Bon. Eh bien les gens maintenant font le choix, très majoritairement, ça se discute plus, c'est le choix du marché, de l'abonnement pas très cher et indifférencié, et je choisis, je picore ce que je veux, dans le flux, exactement comme
ils
pour
font aussi le choix du podcast, et à France Culture en particulier, nous en sommes particulièrement ravis parce que
alors là, on est revenu au gratuit
pour lesquelles oui, mais c'est tout
et
à fait intéressant,
flux. Tout à fait,
parce qu'il s'agit quand même d'une démarche pour imposer un choix qui est autorisé à la fois par la gratuité, mais aussi par l'extraordinaire assouplissement des modes de consommation. On n'est plus tenu par des grilles.
Et grâce à la technologie, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a du gratuit, il y a du payant, et il y a du flux, et il y a « je choisis ». Alors « je choisis » en radio, ça donne du podcast. Et en effet, c'est grâce à ça que j'écoute votre émission tous les samedis, mais pas toujours à la bonne heure.
Merci.
Mais le fait de pouvoir choisir est indépendant du fait que ce soit gratuit ou payant. C'est choisir versus flux, et gratuit versus payant. Et moi, je crois que tout cela va continuer de coexister.
Je veux juste moduler un tout petit peu. C'est-à-dire que on choisit et on choisit pas, parce qu'il faut pas oublier que Netflix, ce qu'a apporté Netflix, c'est un travail sur les algorithmes qui fait que on vous propose un certain nombre de choses qui sont donc vous-même.
C'est-à-dire en fonction de ce que vous avez vu.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, une des limites du modèle parfois, c'est qu'il n'y a pas de surprise, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on, plus on aime quelque chose, plus on le retrouve. Alors que d'une certaine façon, on pourrait espérer que, comme voulait le faire Jacques Chancel à une époque, il faut présenter au public ce qu'il n'attend pas et qu'il est content de découvrir. Donc il y a cette limite. On peut être deux personnes sur Netflix et avoir des recommandations extrêmement différentes. Enfin, c'est ce que j'expérimente en tout
cas.
Et
même les bandes annonces du même film ne seront pas les mêmes.
Oui. Donc le choix est quand même un peu téléguidé.
Olivier Bomsel, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur de la chaire d'économie des médias et des marques à Mines Paris Tech. Qu'est-ce que ce nouveau paysage induit en termes de comportement de consommation ? Est-ce qu'il y a là aussi des rapports de force qui jouent davantage encore en faveur des émetteurs, même si entre eux, ils se livrent cette concurrence qui ne fera qu'augmenter dans les mois qui viennent ?
La rupture essentielle, elle est entre, d'un côté, le broadcast, qui était la manière exclusive d'accéder individuellement aux consommateurs pendant pratiquement tout le XXe siècle, avec des décrochages qui pouvaient être la vente de cassettes ou de DVD ou de disques pour le modèle de la musique. Mais le broadcast, c'était en temps réel l'accès aux consommateurs à un récit au présent qui pouvait s'intercaler avec des récits au passé et qui structurait la radio et la télévision. Et vous mentionniez tout à l'heure l'importance des grilles. Je pense que le propre de la télévision et de la radio était de fabriquer des programmes et de dédier ce que vous avez appelé les contenus, c'est-à-dire les différents formats de récits, à l'intercalage et l'agrégation dans les programmes.
Et en fonction de ce qu'on estimait, de ce que l'on pensait savoir des publics.
Absolument. Pour la télévision en clair, l'enjeu ayant toujours été de fédérer un maximum de public dans la contrainte de la grille, c'est-à-dire dans, au bout du compte, la fabrication du temps du spectateur, la fabrication du temps du consommateur. Et ce dispositif conduisait à agréger ensemble des récits de nature extrêmement différente. La météo, le tirage du loto, la publicité, le journal télévisé, la publicité, le prime time qui était soit du documentaire, soit de la variété, soit de la fiction. Et je pense que la caractéristique des médias malgré tout, c'est de produire des récits. Et les récits sont caractérisés par leur espace-temps, mot un peu savant là, dans ce registre, c'est le chronotope. La télévision brassait des chronotopes très différents. Un des premiers effets de Netflix, comme d'ailleurs des chaînes d'information continue, c'était de se spécialiser sur des formats de récits. Netflix s'est spécialisé sur des formats fictionnels.
Il y a aussi des documentaires. Hein,
qui... Absolument, mais les documentaires, on peut les considérer comme des semi-fictions. Enfin, elles ont un rapport au réel qui est un peu différent, mais elles romancent malgré tout.
Mais il y a de la télé-réalité même.
Il y a de la télé-réalité, il y a du docu-fiction, il y a du... Making a Murderer, c'est plus compliqué qu'un documentaire en réalité. C'est une grande série de 11 épisodes sur une affaire juridique dans un état du Midwest américain. C'est un
Monster Case avant lui.
Absolument. C'est un programme très très compliqué en réalité. Et donc le point très important, c'est que le consommateur a compris que s'agissant des chronotopes passé, fictionnel passé, il pouvait regarder ça en temps choisi et que s'il le faisait en temps choisi, il échappait à la grille et que c'était une autre logique d'adhésion au programme qui se mettait en place. En gros, la télé fabriquait du rendez-vous, les plateformes fabriquent de l'addiction et de l'addiction au récit.
Cela veut dire, François Josse, que les... Du coup, les modes de production sont eux aussi complètement bouleversés et les télés traditionnelles sont quand même bien démunies. On le voit avec l'effort des chaînes françaises qui, pour une fois, décident donc de s'allier dans ce projet qui s'appelle, je crois, Salto, mais qui, paraît-il, a plutôt fait ricaner Monsieur Reed Hastings, qui est le patron de Netflix. Enfin, non pas que ce soit un signe de bonne éducation de sa part, mais néanmoins, est-ce qu'on n'arrive pas là véritablement à transmettre trop tard,
quoi. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste préciser sur ce que peut faire le spectateur. Il faut distinguer entre ce que peut faire le spectateur et ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a effectivement une certaine liberté, que vous dites, de se libérer de la grille. Mais dans les faits, les études montrent qu'il ne s'en libère pas tant que ça. C'est-à-dire que 51% de l'audience en replay se fait le jour même de la mise en ligne. C'est-à-dire que on suit, il y a une chronologie qu'impose la grille, qui est suivie très fortement par le spectateur et qui fait qu'on concentre l'audience sur certains programmes encore plus qu'avant.
Oui, bon, mais le replay, c'est de la télévision.
Non, on parle de télé.
Oui, on parle de télé.
Dans le cas de Netflix ou des autres plateformes...
Oui, je parle du replay sur les chaînes, bien sûr.
Là, on peut goulûment tout avaler d'un coup. C'est-à-dire que, voilà, si on est vraiment addict, pour reprendre votre expression...
Le grand fait d'armes de Netflix, c'est que c'est les premiers producteurs qui, après avoir produit une série... en l'occurrence House of Cards, a décidé de programmer d'un seul coup tous les épisodes de la première saison de la série, pour encourager les consommateurs à les
consommer
en séquence.
Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'élection de Donald Trump, qui a tout à coup rendu House of Cards atrocement vieillot.
Mais ça, c'était bien après, c'était 5 ou 6 ans après.
On est d'accord.
Bon.
François Jost... On voit que les consommateurs ont donc le choix, tantôt d'obéir au tempo classique du récit, selon le type de récit, comme vient de l'expliquer Olivier Bomsel, mais il peut aussi changer totalement de comportement et décider de se livrer totalement à son addiction. Et ça, c'est un comportement qui n'était absolument pas dans les mœurs.
C'est ce qu'on appelle le binge-watching, qui est donc consommé d'une façon compulsive tous les épisodes d'une série, d'une saison, qui effectivement est une pratique alors tout à fait différente de la télévision. Est-ce que c'est une pratique tout à fait nouvelle ? C'est pas sûr, parce qu'en fait, ça revient à nier le caractère de feuilleton de ces séries et à les considérer comme des grands films. C'est-à-dire que on voit l'attachement en fait aussi à un vieux modèle d'un certain nombre de consommateurs qui veulent vraiment avoir le fin mot de l'histoire et qui donc vont dévorer.
Et ça, c'est le feuilleton d'Alexandre Dumas ou les grands feuilletons écrits.
Mais avec la possibilité, avec le fait qu'on sait qu'il y a une fin justement. Donc c'est effectivement un autre mode de consommation, mais qui peut se lier à, parce que une chose qu'on oublie souvent, c'est que si on est aux États-Unis, le Game of Thrones, on va le regarder au moment où ça sort. On n'a pas envie d'attendre. Alors, le problème pour la télévision, c'est de trouver des contenus aussi forts qui font que on ne regarde pas la plateforme, mais on regarde la série au moment où elle est en train de passer épisode par épisode. Ce qui est beaucoup plus frustrant pour le spectateur, puisqu'il ne peut pas assouvir cette fin de connaître la fin, mais qu'il doit attendre de semaine en semaine.
Et c'est beaucoup plus difficile pour les programmateurs. Yannick Dehé, en Europe, où en est-on de la capacité d'adaptation, d'assouplissement en quelque sorte, des médias audiovisuels traditionnels par rapport à ce nouvel univers? On sait qu'en Europe du Nord, les télés publiques scandinaves se sont alliées tenter de faire front.
Ce qui est intéressant, alors, soit on est positif et on considère que c'est une saine réaction, ou soit on est négatif et on considère que ce sont des initiatives générées par la peur de l'arrivée des rouleaux compresseurs américains. On a à la fois une initiative des différentes télévisions nordiques qui ont décidé de mettre ensemble leur production de programmes originaux sur une même plateforme. Mais on a également une initiative en Allemagne pilotée par le groupe ProSieben, et on a cette fameuse initiative Salto française qui réussit l'exploit extraordinaire de réunir France Télévisions, TF1 et M6, qui n'avaient jamais été réussis auparavant. Moi, je n'enterrerai pas trop vite ces initiatives, même si elles ont du mal à démarrer, parce qu'il me semble qu'il y a une véritable carte à jouer, double carte. D'abord, celle d'une production locale, et malgré tout on a toujours besoin de auprès du public de retrouver ses racines dans les consommations culturelles.
Et puis on voit le succès d'un village français, enfin de séries françaises.
Cette notion de patrimoine culturel, et puis aussi parce que Je crois qu'il doit y avoir, dans un marché extrêmement ouvert, des stratégies éditoriales. Or, qu'est-ce qu'on voit actuellement ? On voit que Netflix a écrasé la première manche avec une stratégie de maillage de l'ensemble de la population. Or, qu'est-ce qui se passe en face ? Eh bien, tout le monde essaye de faire la même chose. Et ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Je vous donne un exemple avec HBO, qui certes n'est pas majoritaire sur le marché, mais qui, en quelques décennies, s'est fait une image extrêmement brillante de chaîne laboratoire, faisant émerger des fictions assez transgressives, comme Game of Thrones qui se termine, mais avant elle, The Wire, et bien d'autres. Or, qu'est-ce qui arrive à HBO ? On a une chaîne qui a appartient à un groupe qui vient d'être racheté par AT&T, qui est dirigé depuis le Texas par des ingénieurs, qui disent bon bah maintenant on vire le patron et il va falloir.
Oui, le patron est parti là. Il va falloir écoutez, merci qu'on fasse. Beaucoup, ça m'intéresse pas. Ce que vous me racontez maintenant ne m'intéresse plus.
Il va falloir qu'on passe la vitesse supérieure et qu'on produise beaucoup plus et dans tous les genres. Ce qui est précisément ce que ne faisait pas HBO, qui faisait des choix éditoriaux très pensés par rapport à des projets d'auteurs. Je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à suivre, puisqu'en face, vous avez un Netflix qui, voyant arriver de la concurrence, décide de lever 2 milliards de dollars sur les marchés d'acquérir à tout va des licences, des droits d'adaptation de grands romans et de signer avec les grands réalisateurs. Or, les grands réalisateurs, il y en a un certain nombre sur le marché, mais il y en a pas non plus un nombre infini. Donc, ces stratégies-là généralistes, de toute façon, sont les stratégies des géants américains. Et en face, les Européens peuvent avoir des stratégies un petit peu plus différenciées et ne pas oublier une partie du public qui est peut-être un public un petit peu moins jeune et un petit peu moins branché, mais qui n'en est pas moins intéressant, qui est un public, on va dire, des plus de 40 ans ou des plus de 50 ans, et qui a envie de retrouver son patrimoine culturel, y compris à travers les rediffusions de séries comme Le Village français ou de séries même encore plus anciennes. Mais on voit très bien quand on regarde Netflix, certes, il y a beaucoup de programmes nouveaux, mais il y a aussi une forte partie de la consommation qui se fait sur des séries comme Friends ou Columbo ou encore plus anciennes. C'est-à-dire que le plaisir du téléspectateur, c'est la nouveauté, mais c'est aussi de retrouver ce qu'il a aimé précédemment.
Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire, et l'on voit bien que pour Netflix, comme pour Disney, ou Amazon ou Apple, l'univers à conquérir est asiatique. C'est évidemment la Chine et l'Inde, mais qui sont capables, l'une comme l'autre, de construire des barrières difficile à franchir.
Oui, alors le Financial Times a consacré une grande enquête justement au marché indien. Et voilà comment commence cette enquête. Deux policiers fatigués, un détective expérimenté, son inspecteur subalterne, qui veulent explorer le paysage urbain nocturne. Ils entament une conversation sur le cas d'un meurtre horrible qu'ils sont chargés de résoudre. Cela ressemble à n'importe quel autre drame policier de Netflix, mais avec une différence cruciale, il s'agit d'un film indien. Alors ce film, en l'occurrence, il fait partie justement des plans Netflix pour conquérir le pays de Bollywood. Et c'est la même chose pour Amazon. Ces géants américains viennent tous les deux de lancer des émissions conçues et produites en Inde et qui traitent de la réalité contemporaine de ce pays. Alors est-ce que cela suffira pour leur permettre de s'imposer dans un paysage du divertissement indien qui est déjà très rempli ? Les Américains y croient pour au moins trois raisons. Tout d'abord, nous dit le South China Morning Post, le journal de Hong Kong, Netflix vise les jeunes, la classe moyenne, accro aux nouvelles technologies. 300 millions de personnes disposent maintenant d'un smartphone en Inde, pays où la vidéo en ligne est aussi courante que la télévision traditionnelle, nous dit le journal. Alors, deuxième raison d'y croire pour Amazon, c'est le prix. L'abonnement mensuel à la plateforme américaine coûte en Inde 129 roupies, c'est-à-dire 1,60€. C'est moins cher que le service vidéo indien concurrent de Hotstar. Pour Netflix, c'est vrai, il faut dépenser un peu plus, 500 roupies par mois, hein, soit un peu plus de 6€. Mais le service reste quand même meilleur marché, en tout cas, que le prix proposé aux États-Unis. Enfin, il y a l'offre. Netflix lance, par exemple, 6 séries indiennes originales, dont Bahubali, une version locale de Game of Thrones. Et puis, de son côté, Amazon a recruté bien les stars de Bollywood pour apparaître dans ses programmes. Et puis, il est utile de préciser que les Américains ne visent pas seulement le marché indien, ils veulent aussi toucher tous les fans des séries indiennes. Par exemple, raconte le Financial Times, Ghoul, la série d'horreur en langue hindi de Netflix, a rencontré un public ne parlant pas l'hindi aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, comme si on voyait émerger un goût mondial pour les contenus indiens.
Alors les réactions restent quand même très différentes d'un pays d'Asie à l'autre.
Oui, alors le cas de la Corée du Sud est assez intéressant. Voilà un pays qui ne s'est pas méfié de l'arrivée de Netflix en 2016, nous raconte le South China Morning Post. À l'époque, les Sud-Coréens estimaient que le contenu principalement hollywoodien de Netflix et son manque d'offre coréenne freineraient ses ambitions. Erreur, parce que comme on l'a dit, et comme nous l'a dit le journal, l'objectif de Netflix est justement de capter un public local. C'est la raison qui a poussé l'entreprise à beaucoup investir dans le drame sud-coréen Mr. Sunshine, devenu l'émission la plus cotée en termes d'audience l'an dernier dans ce pays. Depuis, les sociétés de diffusion coréennes se sont enfin réveillées en formant entre elles une alliance dans laquelle, je cite, « elles s'engagent à lancer ce qui deviendra le plus grand service de diffusion vidéo en continu du pays ». Encore inconnu aujourd'hui, nous dit Le Quotidien, mais cette réplique en tout cas arrive tard, alors que Netflix frôle le million d'abonnés maintenant en Corée du Sud. Le pari est-il déjà perdu? Le vrai gagnant, nous dit le South China Morning Post, sera le public asiatique qui va voir affluer de nouveaux contenus de qualité et une guerre potentielle sur les prix qui les rendra moins chers que jamais.
Le marché le plus crucial et le plus difficile, c'est évidemment la Chine.
Alors, la Chine, un journaliste du Financial Times est allé rencontrer Gao Xiaosong, qui est le bras droit du patron d'Alibaba, de Jack Ma, et qui est en charge du cinéma. C'est donc ce monsieur que Jack Ma a choisi pour aller conquérir Hollywood. Et Gao Xiaosong a un avis très clair sur la question, je le cite, « La mondialisation de l'industrie du divertissement en Chine ne décollera certainement pas de Pékin », explique-t-il, mais elle décollera d'Hollywood car Hollywood produit des films mondiaux. C'est la raison pour laquelle Alibaba Pictures a décidé de coproduire des films comme par exemple Green Book, qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Mais Alibaba Pictures a aussi coproduit The Wandering Earth, qui est un film de science-fiction chinois et qui a fait un carton au box-office chinois cette année et qui a été repris par Netflix pour une distribution mondiale. Surtout, nous explique le Financial Times, Gao Xiaosong est aussi convaincu qu'Alibaba a des choses à apprendre à Hollywood, comme par exemple le commerce électronique et aussi les mégadonnées.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
François Jost, vous êtes sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Vous vous intéressez depuis toujours à la télévision. Si l'on revient en France, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé dans cette émission jusqu'à présent, qui est Canal. Canal+, qui était évidemment très innovant il y a 40 ans maintenant, 40, ouais. 45 ans. On voit que ce modèle-là souffre de l'irruption d'acteurs qui sont infiniment plus puissants et qui, encore une fois, développent des technologies et des stratégies de conquête du marché qui sont à une toute autre échelle.
Oui, quoique Canal+ essaye d'emprunter parfois la stratégie de Netflix en diffusant, par exemple, à ses abonnés toute une saison d'un coup. Mais je pense que Canal+ est comme HBO, quand même un des lieux où se fait encore beaucoup la création française. Le Bureau des Légendes est devenu un succès international. Il y a eu un certain nombre de séries vraiment très importantes.
Il y a néanmoins Olivier Bomsel, et c'est, je crois, là aussi une dimension de cette industrie qui est particulière en France. Il y a chez nous tout un système réglementaire qui est à la fois plus protecteur, mais aussi plus encombrant qu'ailleurs.
En France,
auquel Canal est, dont Canal est évidemment partie prenante.
Il y a une grande tradition en France de création des marchés par l'État. Et la télévision est vraisemblablement une activité très emblématique dans ce domaine, pas seulement le nucléaire ou le TGV en est une autre. Et donc, quand l'État a créé le marché de la télévision, d'abord en libéralisant un peu l'ORTF, en lui donnant statut d'entreprise publique, puis surtout en créant Canal+, qui est, ça c'est une singularité mondiale, la première fois qu'un opérateur privé entre sur le marché comme second entrant après la télévision publique, mais comme opérateur payant. Dans tous les autres pays qui ont introduit la télévision privée après la télévision publique ont introduit des chaînes en clair. En France, on a introduit la télévision payante qui permettait d'avoir une différenciation maximale finalement avec la télévision d'État et de toucher des catégories sociales fortement disantes et prêtes à payer pour le moyennant quoi on a créé un marché très fort de la production cinématographique et un système réglementaire dans lequel l'octroi de concession, donc d'accès exclusif aux consommateurs, était contrebalancé, non pas par un loyer payé par les chaînes, mais par des achats de programmes commandés à des sociétés de production. Et c'est structuré comme ça, un écosystème dans lequel les chaînes de télévision était organisé autour d'actifs qui étaient les concessions de fréquences et donc les activités de broadcast, si vous voulez, et dans lequel une part très importante de l'activité de production était sous-traitée à des sociétés indépendantes qui se sont organisées pour collecter quelque part les obligations de financement des chaînes de télévision. Et dans ce dispositif, on a créé un écosystème de production avec pour la télévision pas loin de 1500-2000 sociétés de production, 90% d'entre elles étant des très petites sociétés. Et puis pour le cinéma, on a créé plus de 400 sociétés spécialisées dans la production des films.
Mais c'est bien ce système maintenant qui est extraordinairement fragilisé et qui paraît menacé d'obsolescence.
Ce système se fondait sur le fait que les actifs octroyés par concession à la télévision, c'est-à-dire les licences d'émettre sur le réseau hertzien, avaient beaucoup de valeur. Et qu'à ce titre, elles devaient reverser une part du chiffre d'affaires à l'achat de programmes à des sociétés indépendantes. Et les sociétés de production indépendantes se sont toujours battu pour pouvoir conserver les droits de propriété sur les programmes. Donc on a en France une industrie qui est maximalement désintégrée, dans laquelle les droits de propriété résiduels des films appartiennent aux producteurs et les chaînes de télévision sont focalisées essentiellement sur les concessions de fréquences. Et dans ce dispositif, c'est extrêmement difficile de faire apparaître des acteurs qui aient le format d'un studio, comme évidemment les majors d'Hollywood, comme aussi Netflix qui possède beaucoup des droits des programmes qu'ils diffusent, ou comme la BBC qui possède également plus de 70% des droits des films qu'elle produit, et ce qui lui permet de coproduire avec Netflix ou Amazon dans des volumes très supérieurs à ce que sait faire l'écosystème français.
Et donc ça explique les crispations, en particulier au Festival de Cannes l'an dernier, François Jost, où on a vu à quel point les organisateurs français ne voulaient pas de production Netflix, sous prétexte que c'était pas franchement du cinéma. Bon, Roma a eu quand même le Lion d'Or à Venise, 3 Oscars. Mais on voit aussi que quelqu'un comme Spielberg, par exemple, s'est battu jusqu'à ses jours derniers. Là, il a perdu. Il voulait empêcher Netflix de pouvoir concourir aux cérémonies des Oscars.
Oui, c'est-à-dire que on exigeait que Netflix diffuse d'abord au cinéma en salle, avant de les passer, mettre sur ces plateformes. Ce que évidemment on ne voulait pas faire Netflix. On est arrivé à une sorte de compromis pour les Oscars, puisque pour les Oscars, le comité des Oscars a décidé que Netflix devrait diffuser dans un cinéma du comté de Los Angeles par 3 séances par jour, je crois.
Pendant une semaine,
les films que Netflix mettrait sur sa plateforme après. C'est pas très gênant, effectivement, je pense, pour Netflix de faire ça.
Non, mais ce qui est très ambigu aussi, c'est que Spielberg, avec toute l'admiration qu'on lui doit, a conclu, lui, un marché avec Apple. Ouais. Donc, là aussi, on voit bien que les grands, les grands protagonistes sont. Je vois qu'autour de la table, il y a beaucoup de protestations.
Non, mais il y a un problème, si vous voulez, esthétique qu'on retrouve, qui était déjà celui de la télévision et du cinéma. Les gens de cinéma ont eu très peur de la télévision, ont refusé de collaborer pendant longtemps, etc. Là, on est dans deux systèmes, deux esthétiques différentes. Les monteurs ont commencé à être malheureux quand, au lieu de regarder la pellicule par transparence, ils faisaient du numérique, ils ont été très mal. Eh bien, il faut s'habituer à ça. Et on va aller vers des films qui, certains chercheurs parlent maintenant de post-cinéma, c'est-à-dire on va aller vers des films qui seront très différents, où parfois le spectateur pourra même intervenir pour changer la fin, où Netflix a déjà diffusé le dernier épisode d'une série qui s'appelait Black Mirror, avec la possibilité pour le spectateur de choisir des embranchements à certains moments. Donc on n'est plus dans le cinéma véritablement qu'on a connu jusqu'à présent. Ce qui fait grincer des dents les cinéastes.
Mais Simone Harari, on est aussi dans un univers où l'interaction est foisonnante et permet beaucoup plus de possibilités.
Bien sûr, et c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout l'obsolescence qui menace l'écosystème tout à fait dynamique de la création en France, parce que il y a déjà des modèles de collaboration entre des chaînes classiques et des plateformes de SVOD qui sont très intéressantes. TF1 a annoncé récemment que pour une série Bazar de la Charité, c'est pas moi qui le produis, donc j'en parle avec tout à fait objectivité, 8 jours après les épisodes, il se retrouverait sur Netflix, qui pendant une période donnée aurait les droits de SVOD juste après le replay de TF1. Au même moment, BBC a toujours en estimant que, comme c'est dans les 24 heures qui suivent une diffusion classique linéaire, que le replay était le plus important et que ça chutait après, et que par conséquent, ils avaient épuisé leur part, finalement, des spectateurs qui s'intéressaient à ce, de leurs spectateurs qui pouvaient s'intéresser à ce programme. BBC, pour Bodyguard, a pris une démarche un peu différente en disant à Netflix, non, nous on garde 6 mois, après vous en faites ce que vous voulez. Mmh. France Télévisions avait au départ eu une démarche radicale qui a consisté à vendre tout son catalogue, puis ils se sont aperçus que leur série phare était marquée Netflix Originals ailleurs, donc il y a eu une marche arrière, mais qui est plutôt pour décider au coup par coup. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des apports financiers nouveaux et une vie future. Souvenez-vous, jadis, on parlait du second marché qu'on ne trouvait pas pour les productions locales, et bien maintenant, le deuxième marché, il existe et il est mondial. Bah, écoutez,
mais ça veut dire quand même que l'écosystème dont parlait Olivier Bomsel, il va devoir s'ajuster. Même Catherine Deneuve trouve qu'on produit trop de films en France. Il y a quand même un émiettement à la fois du nombre de petits producteurs, de petites entités qui semblent condamnées, à moins que ce ne soit une voie de salut, à se regrouper. Il va y avoir un remodelage de tout ça. Les fameux délais la chronologie des médias entre le CNC d'un côté, les producteurs, Canal, etc. Pour le profane, tout cela semble quand même extraordinairement à la fois dépassé et menacé.
Alors, je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a maintenant donc des opportunités de distribution qui vont permettre à certains films qui avaient genre 50 000 spectateurs, eh bien, de pouvoir être vus beaucoup plus largement. Il faut bien voir que dans le monde d'hier, le but pour les productions, pour la télévision, était de fédérer un maximum de gens en ne choquant personne. Maintenant, on peut être très typé pour ne s'adresser qu'à une partie du public, donc ça libère au contraire de la créativité et des énergies. Les goulots d'étranglement étaient qu'il y avait peu de chaînes qui étaient soumises à cette contrainte de mass média. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes et beaucoup de possibilités directement quasiment du producteur au spectateur. C'est ce que Warner est en train d'essayer d'imaginer, qui va littéralement enjamber les plateformes de SVOD. Donc,
c'est Disney. Hein.
Oui, ce qui paraît de plus en plus menacé, ce sont en effet des règles de diffusion qui disaient vous ne pouvez pas, après tel passage sur Canal+, par exemple, après la salle, il faut attendre tant de temps pour la vidéo, tant de temps pour Canal+, tant de temps pour une chaîne. Ça, évidemment, ça vole en éclats. De même, il était interdit aux chaînes de télévision de diffuser des films le mercredi soir pour ne pas gêner la sortie des films en salle. tout ça va évidemment être totalement obsolète, mais ce qui concerne la création, son financement et la diversité de la création, c'est au contraire un âge d'or là qui arrive.
Yannick Dehaes, ce qui est quand même frappant dans cette discussion, c'est qu'on voit que dans ce bouleversement au niveau des systèmes de diffusion et donc des modes de production, il y a un brassage culturel beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus mondialisé qu'auparavant.
Oui, la rapidité, c'est un peu le maître mot. Et c'est aussi une des raisons du succès de ces plateformes auprès des créateurs. On critique effectivement Spielberg, Scorsese, les Coen, etc. Une première chose à dire, c'est que l'histoire du cinéma hollywoodien est jonchée de projets qui n'ont jamais réussi à se monter parce que les studios tergiversaient, parce qu'il y avait un peu trop de ceci, pas assez de ça, etc. Et puis on présente une version, une deuxième version, une troisième version, puis finalement les acteurs ou le réalisateur sont plus disponibles, enfin bref. Là, ce que l'on voit, les deux avantages compétitifs de Netflix ou d'autres par rapport aux grands studios, c'est la capacité d'avoir un rendez-vous avec Scorsese et à la fin du rendez-vous de lui dire c'est bon, on y va. Et vous avez 200 millions de dollars. Ça, les studios n'ont jamais été capables de faire ça. Et en plus, on va vous laisser une paix royale. C'est-à-dire, on se revoit en salle de projection pour voir le premier montage du film. Or, là aussi, l'histoire d'Hollywood est parsemée d'exemples d'interventionnisme des producteurs. Alors, il y a des exemples brillants de producteurs. David Selznick n'intervenait pas n'importe comment. Mais il y a eu aussi des exemples un petit peu désastreux de réalisateurs. Et Scorsese a connu ça. De réalisateurs qui se sont fait mettre des bâtons dans les roues et dont la vision créatrice n'a pas pu complètement se déployer. Donc, premier avantage, c'est cette rapidité associée au fait de bien financer et, comme le disait Simone Harari, de ressortir également du rendez-vous en ayant cédé les droits monde. C'est-à-dire que plutôt que pour un producteur d'aller chercher des distributeurs pays par pays, on a un seul interlocuteur et cet interlocuteur dit banco. Donc c'est la raison pour laquelle quand Scorsese ou d'autres vont vers ces plateformes, c'est pas forcément des traîtres, c'est que en l'occurrence le prochain film de Scorsese, il a essayé de le faire avec la Paramount et puis au bout d'un an ou deux, il en a eu marre et il est allé voir les plateformes et ça s'est monté extrêmement vite. Donc il faut bien comprendre ça également, c'est-à-dire que les studios ne se sont peut-être pas assez remis en cause dans leur façon de travailler et de mettre sur pied des projets. Un dernier mot sur Spielberg. Sa position est très nuancée, c'est-à-dire qu'il dit d'un côté, vous avez Netflix qui dit on veut bien royalement concéder une semaine d'exploitation cinématographique, et de l'autre côté, les exploitants aux États-Unis qui disent on veut 3 mois minimum. Et Spielberg dit aux deux, parlez-vous et trouvez un juste milieu, mais effectivement, il n'est pas possible qu'on donne qu'on accorde des Oscars à des films qui n'auraient pas réellement été exploités en salle. Et c'est plutôt une voie de sagesse, et par ailleurs, sa société Amblin Entertainment, en fait, elle travaille avec toutes les plateformes.
Si on en vient maintenant, puisqu'on approche de la conclusion de cette émission, sur la nature même du récit. On a tous été bercés par cette tradition d'Hollywood, nourrie d'ailleurs par énormément d'émigrés d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale, qui ont construit le grand récit idéal de l'Amérique, qui a conquis le monde, en tout cas le monde qui avait accès à ces productions. François Jost, à partir du moment où il y a ce brassage, et Eric Scholl nous rappelait même ces films indiens ou ces films chinois qui font appel à des références culturelles qui ne sont pas véritablement les leurs. À partir du moment où ce brassage a lieu, que devient le rôle de soft power qui a été décrit abondamment comme étant d'ailleurs et surtout au profit des États-Unis, mais pas seulement, un outil d'influence et d'influence culturelle, sinon politique, majeure.
Je crois qu'effectivement, ce soft power est beaucoup moins fort avec Netflix qu'avec les séries télévisuelles, que l'on découvre, parce qu'on disait tout à l'heure, chaque pays peut retrouver quelque chose de lui-même avec des séries qui sont faites comme Marseille par exemple avec Depardieu, mais ce qui est extraordinaire c'est qu'au fond ça nous fait comme découvrir beaucoup de choses. Effectivement je pense que les séries indiennes on ira les voir aussi, c'est intéressant pour enfin pour les gens qui sont un petit peu ouverts. Donc je crois que ça dissémine tout à fait des cultures. Bon, il faut pas être complètement optimiste, utopique, etc. Mais je pense que c'est quand même il y a un brassage culturel. Alors, par ailleurs, le récit est en train de changer. Il y a eu cet essai dont je parlais tout à l'heure qui s'appelait Bandersnatch, où on était vraiment en interaction, même si cette interaction était très largement feinte. Mais je pense que des récits sont en train de s'expérimenter, alors qu'on avait jusqu'à présent le formatage de certaines séries télévisuelles était une reproduction du même constante.
Simone Harari, vous qui êtes justement parmi ceux qui créent et qui proposent des programmes, est-ce que votre tâche est encore plus difficile
auparavant ? Elle est vraiment plus excitante, sachant que le premier recours d'un Netflix ou d'un Amazon qui s'intéresse à la France, ce n'est pas d'abord pour des productions françaises qui s'adressent au monde. C'est d'abord pour des productions françaises qui vont déclencher des abonnements de Français sur leur chaîne. Et donc c'est en effet assez typé, que ce soit Planqueur sur Netflix ou Deutschland sur Amazon. Alors par exemple, ils ont remis le goût de la série de comédie en 26 minutes qui avait complètement disparu des radars, ou Marseille et Depardieu, comme vous le disiez, c'est-à-dire de prendre des étiquettes ou des drapeaux qui claquent fort au vent, plus que peut-être une démarche plus créative. Ce qui est vraiment d'intéressant, c'est que la diversité, incontestablement, s'accroît et que pour le spectateur, le choix va être un peu plus grand. Alors, que devient un pays dans lequel chacun à des petits bouts de communauté, et qu'est-ce qui fait encore la conversation commune d'un pays, ça c'est un sujet un petit peu différent et qui est un peu
d'un pays ou d'un continent ou
absolument
d'un partage de valeurs transcontinentaux, à supposer que transnationaux encore...
en tout cas. Voilà. Oui. Donc ça c'est évidemment, à mon avis, c'est plutôt ça la conséquence peut-être problématique de cette mondialisation, puisque au fond c'est une désintermédiation comme toutes les ubérisations, c'est une mondialisation au sens où à sa fenêtre on a un marché mondial, avec le risque évidemment que ce qui est une communauté nationale, la France, une communauté continentale, l'Europe, ait plus de mal à dégager ses valeurs. Et je sais bien que ça peut paraître ringard, mais d'une certaine façon ça donne aux services publics de ces pays, aux télévisions de services publics de ces pays, une mission peut-être tout à fait différente de ce qu'elle était avant, puisque eux seuls peuvent avoir aujourd'hui en charge ou en mire ce type d'objectif.
Dernier mot, Yannick Dehaye, vous partagez la planche de salut serait encore et toujours le service public, et on ne peut pas conclure autre chose sur France Culture un samedi matin.
Le service public, bien évidemment, aussi et aussi chaînes et des plateformes qui ont une politique éditoriale de long terme. En réalité, c'est la capacité à se projeter sur le long terme qui permet de produire des bonnes séries. L'exemple du Bureau des Légendes, qui, soit dit en passant, est un outil de soft power français, est tout à fait remarquable, mais il a fallu l'installer dans la durée.
Et on attend évidemment la suite du Bureau des Légendes et la suite de beaucoup d'autres séries. Merci à tous, merci à Simone Harari. Simone, vous venez de publier un petit livre très intéressant aux éditions de l'Observatoire, La chaîne et le réseau, pourquoi Internet ne va pas tuer la télévision. Yannick Dehaye, directeur de Nouveau Monde Éditions, vous avez co-dirigé Les Producteurs, enjeux financiers, enjeux créatifs. Vous êtes aussi directeur de la publication Le Temps des médias. Olivier Bomsel, vous avez, vous, publié chez Gallimard en 2017 La nouvelle économie politique, une idéologie du 21e siècle. Je n'oublie pas François Jost, vous dirigez la revue Télévision aux éditions CNRS. Le numéro 10 vient de paraître. Il est consacré précisément aux mutations de la télévision. Et vous avez aussi publié La méchanceté en acte à l'ère numérique. Ça, c'est tout un programme. Au CNRS édition 2018. Merci, bien sûr, à Eric Scholl. Luc Jean Reynaud était à la réalisation ce matin. Nasser Moussaoui à la technique. Meryl Moneghetti a préparé cette émission. Et comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.